Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes en plein mois d'octobre, octobre rose, le mois de sensibilisation contre le cancer du sein. Et comme tous les jours dans Femmes d'aujourd'hui, ce sont des histoires vraies qui viennent à vous, des histoires du fond du cœur. Et aujourd'hui justement, on fait de la sensibilisation à la façon de Femmes d'aujourd'hui. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, Femmes d'aujourd'hui.
Fatem Zahra Mchirah, bonjour.
Bonjour Yasmine, ça me fait plaisir de te parler une deuxième fois.
Moi aussi, ce qu'on pourrait appeler le livre de ta vie, Yek. Une femme, ça cache tellement de chapitres. Kéna ou le Makinesh?
Oui, c'est vrai. C'est mon troisième bébé. J'ai deux enfants, mais celui-là, c'est le troisième.
Oh, celui dont on va parler. C'est un bébé en fait, qui est venu dans la douleur. On va dire les choses comme
c'est
ça.
C'est un cri de douleur.
C'est quoi ce bébé?
Ça vient du fond du cœur.
À 58 ans, quel bébé as-tu mis au monde, Fatem Zahra?
Une partie de ma vie. Je raconte une partie de ma vie.
Donc c'est un livre.
C'est une autobiographie, on va dire. C'est une sorte de journal. C'est une partie de ma vie où j'ai rencontré Monsieur Cancer. Et je ne regrette pas cette rencontre, ça, sincèrement. C'est vrai que c'est une partie douloureuse et ce sont des traces qui restent. Mais Monsieur Cancer m'a appris beaucoup de choses. Et j'en remercie Dieu.
Afti, Fatem Zahra, j'ai eu l'occasion d'interviewer beaucoup de femmes touchées par la maladie. Je n'ai pas le souvenir qu'une m'ait dit, je ne sais pas si le mot est juste ou si l'expression est juste, mais finalement, ne pas avoir apprécié en fin de compte cette maladie dans la mesure où elle lui a ouvert les yeux, changé de cap
de vie. Avec du recul, on se dit qu'on est, je vais parler au féminin, on est chanceuse. Parce que si ce n'était pas cette maladie, eh bien, on ne saurait pas ce qu'on est aujourd'hui.
Ça fait 10 ans que tu as eu un cancer, c'est ça?
Ça fait 12 ans.
C'est un cancer de quoi?
C'est un cancer au niveau du sein.
D'accord. Et on est en plein mois d'octobre, c'est le mois rose, le mois de sensibilisation contre le cancer du sein. Est-ce que toi, tu étais sensible à la maladie avant?
Non, je ne connaissais vraiment pas. Enfin, j'entendais parler du cancer et pour moi, cancer égale mort, automatiquement. C'était comme ça que je concevais les choses. Mais personne dans ma famille n'avait eu cette maladie. J'entendais des gens, des amis, mais sinon, ça.
C'était pas une maladie de la famille.
Non, pas du tout. J'étais la première.
Ok. Alors, tu l'as découvert comment?
Ben, je l'ai découvert un jour en faisant une palpation. Et je me suis dit, c'est peut-être un petit dérèglement hormonal, c'est tout, ça va passer. Bon, une semaine après, la petite boule était toujours là. Et c'est là où je suis allée voir...
Elle était comment cette boule, Fatem Zahra? Parce qu'on a toutes des boules, ça peut être...
Il y a des kystes. Voilà. Alors, c'était une boule que je sentais pendant une semaine. Et je me suis dit, je vais aller voir un médecin. Mais au fond de moi... J'étais convaincue, vraiment l'idée du cancer, pour moi, c'était la dernière, je n'y pensais pas du tout.
Mais comment tu penses que tu as été motivée à aller voir un médecin? Parce que justement, pas de cancer dans la famille, tu avais quoi? Tu avais 46 ans à l'époque?
J'avais 46 ans.
Voilà, tu avais 46 ans.
Parce qu'en plus, il y avait un dérèglement menstruel. Donc je me suis dit, on va aller faire une petite visite pour voir qu'est-ce qui ne va pas.
Ouais. Et le dérèglement était lié à ce cancer?
Oui, apparemment, c'était lié. Déjà, il y avait un dérèglement les mois précédents. Donc, j'avais pris des médicaments pour que tout entre dans l'ordre. Mais on n'a pas vu venir, quoi. Et c'était déclaré stade 3.
D'accord. Moi, je trouve quand même que, comme on dit, dans la mesure où beaucoup pourraient passer à côté... En se disant, dérèglement hormonal, 46 ans, c'est normal, c'est plus ou moins l'âge de la périménopause. Oui. Une boule, je ne suis pas familière avec le cancer, ça n'arrive qu'aux autres, de choses. Et ne pas aller chez le médecin.
Ça n'arrive qu'aux autres, il faut l'enlever de la tête, ça peut nous arriver un jour et ça vous tombe dessus.
Oui. Alors.
C'est pour ça qu'il faut faire ces contrôles à partir de 45 ans. Et même moi maintenant, je fais des contrôles. Au début, les contrôles, c'était tous les 3 mois, tous les 6 mois. Maintenant, c'est annuel.
Alors, Fatem Zahra, justement, le diagnostic tombe, le chemin du traitement et de la guérison. Tu as appris quoi sur toi, la Fatem Zahra d'avant, de pendant et d'après? Avant la maladie, pendant le chemin de la guérison et du traitement et d'après la maladie?
Avant, c'était une Fatem Zahra qui était entièrement dédiée à sa famille. Je ne m'accordais pas du tout de temps pour moi. Pendant, je ne réfléchissais même pas. J'étais devenue comme un automate, c'est-à-dire les bilans, les examens, les radios, l'opération, la radiothérapie, la chimiothérapie. Vraiment, je me concentrais un peu de temps quand j'étais toute seule le soir dans mon lit, et c'est là où je pleurais, où je commençais à réfléchir sur mon cas. Mais j'avais peur, mais toute la journée, c'est comme si quand je sortais de ma chambre, je mettais un masque et j'étais une autre. Mmh. Parce que j'avais mes enfants, j'avais ma fille qui passait son bac déjà, et je refusais de rester à la maison. J'avais un arrêt de travail de 6 mois, mais je ne pouvais pas rester à la maison. C'était trop difficile pour moi, parce que rester à la maison, ça voulait dire faire des recherches sur Internet. C'était trop difficile.
Tu as fait quoi, justement, pendant ces 6 mois de traitement? Tu es allée travailler?
Oui. Après l'opération, parce que j'ai fait une ablation totale du sein. Donc, j'ai fait 6 séances de chimio, ablation totale, radiothérapie. Donc, ça demande à peu près 1 an de ouais. traitement. Et après, c'était l'hormonothérapie pendant 5 ans. Mm. Non. Après l'ablation, il fallait un temps de remise en forme et j'ai repris le travail.
Tu as repris
ça. Pas pu rester. Non, j'ai pas pu. Même si j'avais un arrêt,
Ouais.
Bon, là où je travaillais, ils ont été très compréhensifs. Donc, ils m'ont donné un travail pas trop fatigant. Je pouvais partir quand je voulais. C'était vraiment, je remercie ma directrice qui a été très compréhensive. Mm. Surtout que je ne devais pas être vraiment en contact, parce que je suis dans le milieu scolaire. Je ne devais pas être en contact avec des enfants qui sont malades.
C'est ça, pour ton immunité, absolument.
Oui, voilà, c'est ça.
Alors, tu as dit, la journée, je portais un masque, et le soir, quand j'étais seule, je pleurais dans mon lit. Je pensais à moi. Ouais. Quand tu pensais à toi, tu pensais à quoi?
Parce que j'avais peur. J'avais peur, j'étais fatiguée, j'étais lessivée. J'étais vraiment lessivée, parce que, surtout les premiers jours, vous savez, je sortais de la maison à 9h et je rentrais jusqu'à 15h. Ah. Parce que c'était bilan après bilan. À chaque fois, ils demandent des bilans plus prononcés pour savoir exactement ce que le corps, comment le corps va réagir, comment il va faire. Donc, ça n'arrête pas. Mmh. Et après, vous êtes pris dans un engrenage. Déjà, la chimiothérapie, c'est tous les 21 jours. La première semaine, vous êtes carrément au lit, vous êtes un légume. La deuxième semaine, c'est l'immunité zéro, donc vous êtes très faible. Et la troisième semaine, vous commencez à reprendre des forces pour commencer la séance d'après.
Ah.
Donc, on n'a pas vraiment le temps de... Donc, moi, la journée, donc, quand je voulais aller travailler, pour ne plus penser à ça.
Et quand la journée, tu disais, la journée, je portais un masque
Oui, je vivais normalement.
Ouais. Mais est-ce qu'on peut vivre normalement ou là on s'impose de vivre normalement ou là des fois...
Moi, je me l'imposais. Je me l'imposais.
C'est une bonne chose, tu penses, ou pas? Ou là, tu aurais pu finalement être plus bienveillante avec toi et aller avec le flot de tes émotions? Quand ça ne va pas, ça ne va pas, je le fais savoir.
Mes émotions, c'était dans ma chambre. Mes émotions, c'était dans ma chambre toute seule. Ma famille proche, c'est-à-dire mes enfants, je ne voulais pas qu'ils me voient déprimée déjà. Et puis dans la rue, je parlais. C'était comme si j'ai essayé de me convaincre. J'en parlais autour de moi. J'arrêtais pas d'en parler. C'est comme si je me le répétais à moi-même. Et puis mes amis, ma famille, je riais avec eux. Je parlais normal, c'est-à-dire comme si de rien n'était.
Mais des fois, tu avais besoin de. Comment on dit chez Hadi
Top?
Est-ce que tu avais besoin chez Hadi Top Top?
J'avais vraiment besoin d'un soutien, mais je ne l'ai pas vraiment trouvé. Et même justement, j'étais suivie pourtant dans une clinique, il n'y a pas de soutien psychologique.
Alors,
Quand j'ai demandé, on m'a dit « Ah, vous êtes sensible ». Je veux bien ne pas être sensible, mais c'est moi qui ai un cancer.
À la clinique, on vous a dit « Ah, vous êtes sensible ».
Oui, il n'y avait pas de, okay, de service de psychologie.
Ok. Quand tu dis j'aurais voulu avoir du soutien, mais en même temps, moi, je ne sais pas, on ne s'est jamais vu, je ne te connais pas, mais de ce que tu me dis maintenant, j'ai l'impression que tu voulais. Tu as mis une carapace, même si tu avais besoin de Tabtaïba, mais tu montrais tout le contraire, en fait. Parce que tu as dit avec ma famille, mes amis, je rigolais, je passais du bon temps, mais est-ce que tu disais je vais mal? Est-ce que tu disais. Tu avais un mari à l'époque, est-ce que tu lui disais je vais mal ou pas?
Mais ça ne passait pas. Oui, je le disais, justement, mais ça ne passait pas. À la maison, mais avec mes amis, non, parce que je me disais si ça ne passe pas à la maison, personne ne va comprendre. Donc, ça y est, pour moi, c'était. Je garde ça. D'ailleurs, à partir de ce moment, tous mes amis, tout le monde me dit « tu es une femme forte ». Maintenant, dernièrement, justement, la dernière fois, j'ai eu un petit coup dur, et tout le monde me dit « tu es une femme forte ». Arrêtez de me dire ça. Je ne suis pas une femme forte. Je suis une femme qui pleure, qui a des problèmes, qui a ses faiblesses. Arrêtez. Je pense qu'à partir de ce moment, on m'a mis une étiquette.
C'est ça. C'est ça. Fatem Zahra, elle est capable de tout surmonter.
Voilà, alors, justement, tu es capable.
Certaines femmes, en fait, donnent cette image de guerrière. D'ailleurs, souvent, on appelle les femmes qui traversent un cancer, et notamment un cancer féminin, on les appelle les guerrières. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette appellation?
Je pense que ça me convient. Enfin, ça me représente un peu. Parce qu'on combat un fantôme, finalement. Parce que je ne sais pas, un cancer, c'est-à-dire, comme je t'ai dit, Yasmine, je n'ai rien senti. Ça me faisait pas mal. Je suis allée voir une gynécologue, tout simplement, pour un contrôle. Et puis, bon, elle a vite compris. Et d'ailleurs, une petite anecdote, je suis rentrée chez elle. Moi, j'avais l'argent pour une consultation ordinaire, quoi. Et elle m'a fait toute une batterie d'examens. Et je lui dis, je suis désolée, moi, j'ai amené juste l'argent pour faire un contrôle. Moi, je n'ai pas amené l'argent pour... Et elle me dit un truc que je n'ai pas compris sur le coup. Elle me dit, t'en fais pas, ma fille, tu paieras après, tu as encore beaucoup de frais qui t'attendent. Elle avait vite, elle m'a dit, mais vous avez des nodules. Je lui ai dit, c'est quoi des nodules? Je ne savais pas ce que c'était, moi, des nodules. Et tout de suite, elle a appelé le cabinet de radiologie. Elle m'a dit, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour qu'ils vous prennent aujourd'hui, sinon ils vont vous demander un rendez-vous. Donc moi, je ne comprenais toujours pas. Je suis allée au cabinet de radiologie, comme une automate, je me présente. J'ai un bilan à faire. Je suis sortie à 14h, depuis 9h du matin. Il fallait tout faire. Elle me dit, on va vous faire une petite anesthésie. Je leur dis, oui, mais je conduis, là. Ils me disent, non, il n'y a pas de souci. Donc, mais je ne comprenais pas. Et là, je t'assure, Yasmine, je ne sais pas comment j'ai fait pendant 2 jours. C'est comme si j'étais out. Je ne réalisais, je ne pensais pas du tout cancer. Je faisais tout ce qu'on me disait. Mais à aucun moment, je me suis imaginée que j'avais un cancer. Pourtant, tout le monde était au petit soin, tout le monde était gentil. Et ce n'est qu'après 2 jours, quand j'apprends la maladie, que je me remémore les regards des gens et la gentillesse, pourquoi ils étaient si conciliants avec moi. Mais pendant 2 jours, je passais sur un nuage, je ne comprenais pas.
Alors, justement, ce besoin de quand tu dis oui, c'est un mot qui me convient, guerrière, parce que on se bat contre quelque chose. Mais en même temps, guerrière, il y a aussi cette connotation de rien ne me touche, alors que émotionnellement, la maladie touche au-delà du physique.
Ça touche, mais on refuse de montrer à l'autre.
Mais pourquoi ?
Enfin, moi, dans mon cas, parce que j'ai pas trouvé cette assistante à la maison. Parce que justement, moi, quand je parle du côté psychologique, c'est pas juste la personne qui est atteinte de cancer qui en a besoin, c'est son entourage proche. C'est-à-dire, si c'est une femme, c'est l'époux, les enfants. Eux aussi, ils ont besoin de cet accompagnement. Parce qu'eux aussi, ils sont dans la peur, parce que de perdre la maman, de perdre l'épouse. Donc, le côté psychologique, il est très important. Pour la famille, quoi.
Absolument. Mais dans ton cas, toi, tu as eu ce soutien à la maison? Tu as eu un... Tes enfants étaient encore jeunes. L'aîné passait son bac, le petit n'avait que 12 ans. Je sais aujourd'hui que tu es séparée. Est-ce que il y a eu la maladie entre vous?
C'est-à-dire,
est-ce que la maladie est la cause de votre séparation?
Pas la cause l'unique, mais ça en fait partie.
On entend souvent le stéréotype dans notre société dire que quand la femme est malade, et surtout quand elle est touchée par un cancer féminin, donc qui touche à sa féminité, il y a un froid qui s'installe. Est-ce que, de par ton expérience, est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai, mais je ne dirais pas que c'est la faute de l'autre, non. C'est pour ça que je parle du côté psychologique pour toute la famille. C'est que une femme qui perd son sein, déjà, elle a personnellement, je parle de mon cas.
Bien sûr.
Déjà, j'avais du mal à m'accepter, parce que un corps mutilé, on va dire, déformé, c'est très difficile. Même quand je portais la prothèse, c'était beaucoup plus pour le regard des autres dans la rue. Mais moi, je savais très bien qu'il était plus là quand je mettais mes vêtements. D'ailleurs, pendant un moment, je refusais de me regarder.
Tu n'as pas opté pour la reconstruction directement ?
Non, ils n'ont pas voulu, justement. L'oncologue n'a pas voulu, il m'a dit pas avant une année. Parce qu'ils ont peur d'une récidive, apparemment.
D'accord.
Donc, après une année, quand j'ai commencé à demander, on m'a dit que c'était cher, que ce n'était pas pris en charge par les assurances. Et puis, au bout d'un moment, j'ai baissé les bras. Jusqu'à, ça fait 2 ans.
Tu as eu ta reconstruction ?
Oui.
Oui ? Tu es contente ?
Oui, je suis contente. Ah oui, oui.
C'est vrai,
ça. Oui, c'est très douloureux, par contre. C'était plus douloureux que l'ablation. Mais je suis très contente. Vraiment, je suis satisfaite.
Tu as retrouvé une féminité, tu en avais besoin.
Ouais. Oui, c'est ça. Donc, déjà, le fait. Enfin, je parle de mon cas, bien sûr. Donc, déjà, moi, je me refusais. Je refusais de voir mon corps. Donc. Ce refus, peut-être que ça se reflète sur le... Si on ne s'accepte pas, on voit mal comment l'autre va nous accepter. Et ça fait un froid, et ben voilà, et on n'est plus les mêmes. Et puis, y a l'hormonothérapie, il y a la chimiothérapie qui joue un rôle très important sur le psychique de la femme, sur sa sexualité, on va dire. Elle n'est plus comme avant. Il y a beaucoup d'effets secondaires du traitement.
Absolument.
Et ça, justement, il faut en parler. C'est pas tabou. Il faut en parler. Et tout le monde ne comprend pas ça. J'en parlais et on me dit non, ça, c'est dans ta tête. Non, ça n'existe pas. Pourtant, c'est prouvé scientifiquement.
Mais quand tu dis ça, c'est dans ta tête, qu'est-ce qu'on dit ? Par rapport à quoi ?
Par rapport à l'envie, par rapport à la sécheresse, il y a l'envie, il y a beaucoup de choses. Parler du fait que la femme déjà ne s'accepte pas ou a du mal à s'accepter.
C'est ça.
Donc quand on ne s'accepte pas, on voit mal comment l'autre va accepter.
C'est pour ça que tu as écrit ce livre ?
Ce livre, il a commencé, ça fait 12 ans. C'était une sorte de journal quand je rentrais. C'était un petit peu mon cri, je racontais comment je passais mes journées. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à parler de la vie de couple, à parler de tout le traitement que j'ai fait. Après, j'ai parlé de la reconstruction. Mais au début, c'était une petite thérapie pour moi. Au début, je ne sentais pas que c'était une thérapie. Je voulais le faire pour les femmes que je rencontrais dans les salles d'attente et qui étaient aussi perdues que moi quand je commençais le traitement. Je voulais vraiment aider ces femmes-là. Je voulais leur dire, parce que je rencontrais des femmes qui me disaient « J'ai une séance de chimiothérapie, je ne sais pas comment ça va se passer ». Et je me rappelais, moi aussi, quand j'allais à ma première séance, je me disais, mais tout le monde me disait, c'est très difficile. Donc, je me disais, mais est-ce que je vais être transformée? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire? La même chose pour la radiothérapie. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté. Donc, voilà, c'était un livre pour essayer d'apporter un petit peu une aide aux personnes qui vont être touchées.
Le livre, on le trouve où, Fatem Zahra? Il est sorti?
Cette semaine, Inch'Allah.
Il sera disponible où ?
Alors, je l'ai mis sur Amazon. Il va être dans les librairies. Mais il y a ma page web où il y a tous les renseignements. Je peux la communiquer ?
Oui, bien sûr.
Alors, c'est FZ Msherah. FZ, c'est Fatem Zahra. Msherah, MSHIRAH.com. Et bien sûr, j'ai une chaîne YouTube. Enfin, je suis en plein promotion actuellement. Et j'espère que ça va toucher les gens, j'espère que ça va apporter des réponses.
Ça te fait du bien d'en parler, Fatem Zahra ?
Oui, et je suis très excitée, j'attends mon troisième bébé avec impatience, parce que ça fait 12 ans, et ça fait un an que je suis dessus, en pleine correction, j'ai rajouté des chapitres, des paragraphes, enfin c'est un travail de, vraiment de longue haleine.
Ouais. Tes enfants, ils en pensent quoi?
Ah, ils sont très contents.
Ouais.
Ils sont fiers.
Ils gardent quoi de cette... Ils gardent quel souvenir de cette période?
Ben, ma fille, on en a parlé quelques années plus tard. Elle m'a dit, maman, je suis désolée, je ne t'ai pas aidée, mais j'avais peur. Je ne lui en veux pas. Elle passait son bac, elle avait 16 ans. Elle avait peur de me perdre, c'est tout à fait normal.
Absolument.
Donc, je ne lui en veux pas. C'est pour ça que je reviens sur le côté psychologique. Mon fils, par contre, à 12 ans, il a écrit un super beau poème, d'ailleurs, que j'ai mis dans le roman. À 12 ans, écrire un poème comme ça, c'est juste magnifique. C'est... Parce qu'on voit, c'est... peut-être pour lui, c'était une sorte de thérapie.
Une petite question.
Il a écrit un poème sur le cancer, oui.
Tu penses que, dans ton contexte à toi, où les enfants sont petits, il y a l'adolescence, etc., c'est des âges délicats, est-ce qu'il faut leur dire ou pas? Est-ce qu'ils étaient au courant ou pas?
Ah oui, moi, le jour où j'ai appris la maladie, parce que c'est moi qui l'ai apprise de toute façon, toute seule, dans ma voiture, j'ai commencé à ouvrir les enveloppes et je voyais carcinome, tumeur, enfin, tous ces mots bizarres. Et donc, j'ai pleuré dans ma voiture un bon coup. Et je savais, j'étais perdue. Je ne savais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Je vais quelque part où personne ne va me trouver ou je rentre chez moi. C'était les deux options. Je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, non, Fatemzara, tu rentres à la maison. Donc, je suis rentrée, ma fille m'a vue, elle m'a dit, maman, qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit, j'ai un cancer. Elle me dit, non, c'est pas possible.
Donc, tu lui as lâché comme ça?
Oui, la fameuse phrase, ça n'arrive qu'aux autres. Bien sûr. Je lui ai dit, elle m'a dit, non, c'est pas possible, maman, tu dois avoir ton médecin. Je lui ai dit, écoute, je sais lire, c'est clair. Donc, on a pleuré un bon coup avec mes enfants.
Avec du recul, tu penses que c'était la bonne manière?
Je ne sais pas, mais de toute façon, je ne pense pas que j'aurais pu leur cacher, parce que quand vous faites la chimio, ben, ils vont vous voir. J'arrêtais pas de vomir, j'ai perdu mes cheveux. Il y a des femmes qui cachent ça, même à leur époux. Je ne sais pas comment elles font. J'ai rencontré des femmes dans des associations qui me disent on ne l'a dit à personne. Je ne sais pas comment elles font.
Ouais.
Moi, j'ai peut-être pas eu ce courage. Ouais. Moi, j'ai lâché. J'ai tout dit.
Elles le disent à personne. Mais comment elles gèrent
justement
l'opération, les cheveux?
Elles ne vont plus au bain. Personne dans le voisinage ne le sait. Dernièrement, j'ai rencontré une jeune de 27 ans. Elle m'a dit, à part maman et papa, personne n'est au courant.
Parce qu'elle veut pas qu'on la voie comme une malade?
Peut-être, mais moi aussi j'ai eu ce souci avec des personnes très proches. On me dit, attention, il ne faut pas prendre la même serviette que tes enfants. Attention, le cancer n'est pas contagieux. Donc il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de... La maladie est encore incomprise. Les gens ne savent pas encore ce que c'est que le cancer.
En
2024, d'ailleurs, je ne sais pas, mais tu dois certainement l'entendre. Alors certaines personnes ne disent pas le mot cancer. Ils disent le mard al-khayeb, hadaksem, parce que c'est un mot qui fait peur. Alors, moi, je suis pour la campagne de sensibilisation au mois d'octobre, mais je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus de campagnes de sensibilisation. Et peut-être se rapprocher un peu plus enfin, pas banaliser, mais arriver à faire passer le message. Je ne sais pas si on peut faire des films, si on peut faire des émissions. Banaliser un petit peu le mot, parce que c'est un mot qui fait peur encore.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.